Bonjour à tous, j'apporte les salutations de l'Église libre d'Aix-en-Provence. J'étais frappé en lisant vos annonces la semaine, de voir que vous pensez particulièrement à nos frères et sœurs persécutés. Cette semaine, ce week-end, c'est une des raisons pour lesquelles mon épouse n'est pas avec moi cette semaine. Il y a un week-end spécial à l'Église libre à Aix-en-Provence et le directeur du bureau français de Portes Ouvertes est dans notre église ce matin. Il était là hier, Michel Varton, et il nous a encouragés à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans des situations de faiblesse extrême et qui pourtant expriment et continuent à exprimer la vie du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous encourager, il nous a rappelé que l'un des pays, le septième sur l'échelle de la persécution au monde, l'Iran, où il y a beaucoup de chrétiens en prison, est un pays où en 2000, il y avait pour ainsi dire pas de convertis de l'islam. Il y avait une église arménienne qui existait, qui survivait un peu. Eh bien, d'après les estimations de Portes Ouvertes, dans ce milieu de persécution aujourd'hui, en Iran, il y a 400 000 convertis de l'islam et qui vivent dans la difficulté, souvent face à l'opposition, mais l'Église est en train d'exploser dans ce pays et nous pouvons prier pour que cela continue à être le cas. Dieu agit à travers la faiblesse, c'est un peu le thème du message ce matin. C'est un court passage. J'inviterai à quelqu'un à lire en deux parties dans un instant. Après ce moment d'introduction, c'est la fin du chapitre 6 du livre des Juges, à partir du verset 33. Et c'est le passage, Gédéon, c'est un des héros de la foi, c'est un des juges dont on connaît encore le nom. Même dans nos églises évangéliques, nous avons la mémoire courte, bien souvent, hein, des hommes de l'Ancien Testament. Mais lorsqu'on cite Gédéon, eh bien, l'incident dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'incident que l'on retient le plus. Et on est toujours en train de sortir l'histoire de la toison. La toison de Gédéon est devenue légendaire. Malheureusement, le plus souvent, lorsqu'on le cite, on le cite pour les mauvaises raisons. Et souvent pour justifier des choses que Dieu se garde de justifier. Enfin, nous verrons ça en regardant ensemble ce passage. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est le psaume 103, verset 14, qui va nous servir d'introduction. Gédéon aussi, Dieu le connaissait. Vous savez que dans les traductions les plus récentes de ce passage du psaume 103, lorsqu'il est écrit « Il sait de quoi nous sommes formés », la traduction c'est souvent « Il sait de quelle pâte nous sommes formés ». Une sorte de pâte. Eh bien, il sait de quelle pâte Gédéon est formé aussi, il a décidé de l'utiliser. Alors, où est-ce que nous en étions? Après avoir risqué sa vie, vous vous rappelez la dernière fois, au mois de, c'était quoi, fin septembre, Gédéon avait risqué sa vie en balayant devant sa propre porte, devant la porte de son père, pour être plus précis. Il était logiquement, après ce risque, il était logiquement prêt à affronter la prochaine étape de sa mission. Oui, cet agriculteur du 12e siècle avant Jésus-Christ, choisi par Dieu pour devenir le prochain juge, appelé à délivrer Israël des Madianites, avait dû, vous rappeler, agir en premier contre le syncrétisme de son propre peuple, de sa propre famille même, en détruisant l'autel de Baal et le poteau d'Achira, dont son père, Joas, était le gardien. agir contre l'infidélité de sa propre communauté était loin d'être la chose la moins dangereuse que Gédéon était appelé à faire. J'ai lancé, après le dernier message, un petit défi à Lucas. J'espère qu'il se rappelle. Mais je ne sais pas s'il a encore la réponse. Je lui ai dit, voilà, ce moment-là où il lutte contre pour rétablir la justice dans sa propre famille, c'est le moment le plus dangereux. C'est le seul moment dans le récit de Gédéon où la Bible dit que sa vie est en danger. Quand il affronte des milliers de Madianites, à aucun moment la Bible ne mentionne que sa vie est en danger. Bien que nous le sachions, évidemment, dans la guerre, sa vie peut toujours être en danger. Eh bien, il y a un deuxième endroit, un deuxième moment où sa vie est en danger, et Lucas va me le trouver d'ici la fin de l'histoire de Gédéon. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je reviens sur cette action contre l'infidélité de sa propre communauté. C'était une action dangereuse. Il a failli, vous vous rappelez, être lynché par ses propres villageois, ou lapidé, parce que en Israël, on lapidait plutôt que on ne lynchait les gens. Mais Dieu est intervenu à ce moment-là, au moyen de la sagesse de son père Joas, pour le tirer d'affaire. C'était en quelque sorte le deuxième miracle dont il était le témoin. Le changement de cœur, la sagesse de son propre père. Finalement, ce premier acte de Gédéon nous rappelle le cycle du peuple d'Israël tout au long du livre des Juges, même pendant, on pourrait dire, tout l'Ancien Testament. Et peut-être, dans le fond, le cycle que l'Église a tendance à suivre, même sous la Nouvelle Alliance. Tout d'abord, on s'éloigne un petit peu de la fidélité de la loi de l'Éternel. On se livre à une forme de syncrétisme. On se livre au compromis. Cela conduit à la faiblesse du peuple, parfois à la persécution, la défaite, l'oppression. Tôt ou tard, il y a prière, il y a repentance. Et Dieu, dont la compassion est infinie, décide d'appeler un chef, un homme qui devient son instrument, qu'il remplit du Saint-Esprit, qu'il envoie pour relever, délivrer son peuple. Ce qui est vraiment intéressant dans le cadre de Gédéon, c'est que Dieu nous donne à voir l'attitude et le comportement du peuple qui ont conduit au désastre. Il s'est agi de déraciner son infidélité, son syncrétisme, de balayer ensemble devant sa porte à lui, avant de songer à balayer l'ennemi, l'oppresseur. Ça n'arrive pas dans chacun des incidents que nous avons dans le livre des Juges. Tout cela s'est donc passé jusqu'au 32e verset du chapitre 6 du livre des Juges. On a ce nettoyage et cette révélation de l'infidélité du peuple. Gédéon, donc, logiquement, est prêt à passer à la deuxième étape et à livrer bataille à l'oppresseur extérieur cette fois-ci. Avant de lire le passage, cependant, notons cependant qu'il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau départ, d'une nouvelle mission qui représenterait un changement de cap radical pour Gédéon. Dieu peut nous demander cela, bien entendu, auquel cas il nous impose ce nouvel appel, en général avec force. Mais très souvent, comme ici, dans le cas de Gédéon, Dieu prend son serviteur là où il se trouve, dans l'activité qu'il cherche à accomplir pour Dieu, et il lui montre comment aller un peu plus loin dans cette même mission, comment être plus efficace, comment porter plus de fruits dans le même service. Est-ce que vous vous rappelez où Dieu est allé à la rencontre de Gédéon? Il était en train de battre du blé à l'abri des regards de l'ennemi dans le simple but de nourrir sa famille. Dieu lui a montré que s'il voulait, comme tout père de famille, travailler pour assurer la meilleure vie possible à sa famille, il fallait aller plus loin. Il fallait enlever cette idolâtrie qui corrompait, qui affaiblissait, qui conduisait à la mort, et il fallait ensuite s'attaquer à l'ennemi qui cherchait à voler la bonne nourriture à la bouche de ses enfants. L'exemple devrait nous faire réfléchir à notre service actuel, nous amener à nous poser la question, comment est-ce que Dieu veut que je développe ce service? Comment est-ce que Dieu veut que je le rende plus efficace, plus percutant, plus conforme à sa parole? Peut-être que nous cherchons bien souvent dans une mission ou un ministère extraordinaire une façon de servir Dieu, alors que ce qu'il veut en priorité, c'est que toute notre vie de tous les jours soit vécue de manière à le glorifier le plus possible. Toujours est-il que nous sommes arrivés dans notre récit au début de la saison des moissons. Et les sauterelles sont revenues sous forme de Madianites et autres peuples nomades pour chercher à nouveau à arracher la nourriture à la bouche des enfants d'Israël. Gédéon doit donc faire un pas de plus dans son ministère. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire les versets 33 à 35, s'il vous plaît? Quelqu'un a sa Bible?
Vas-y, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et dressèrent leur camp dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu du souffle du Seigneur. Il sonna de la trompe pour appeler Abiézer à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé pour l'appeler aussi à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre.
Merci. Première étape, l'arrivée de l'ennemi. Nous sommes dans le nord de la Palestine, je rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié un petit peu où nous nous trouvons. Et nous voyons Madian, Amalek et les Bédouins d'Orient s'installer dans un lieu stratégique, dans la partie est de la vallée de Jizréel, la plaine la plus fertile de toute la région, et qui en plus était très bien placée pour permettre d'accéder à d'autres régions agricoles, à la fois au nord et au sud de la vallée. Nous apprenons plus tard que leur nombre est absolument impressionnant. Hein, si vous voulez voir après, hein, on trouve ça dans, au chapitre 7 et au verset 12. Aussi, s'agit-il de rassembler une armée qui sera capable de leur livrer bataille, les empêcher de voler la moisson pour une huitième année successive. Vous imaginez, hein, 7 moissons qui ont déjà été gâchées, perdues pour la plus grosse partie. C'est un moment crucial pour Gédéon. Le moment de vérité peut-être, car il s'agit de voir si le peuple va accepter de voir en lui le nouveau chef, choisi par Dieu pour le délivrer. En le revêtant du Saint-Esprit, Dieu souligne à ce moment-là que c'est bien lui qui a appelé Gédéon. Celui qui est la marque distinctive de tout disciple de Jésus-Christ sous la Nouvelle Alliance n'était donné qu'à certains hommes choisis sous l'Ancien Testament, lorsqu'ils étaient chargés d'une mission particulière. Ce qui est plus frappant dans ce passage et que nous ne voyons pas dans nos traductions, c'est la tournure linguistique qui exprime la réalité. Nous avons l'habitude de penser que c'est le disciple qui est revêtu du Saint-Esprit. Or, dans ce passage, l'hébreu dit l'inverse. Et c'est le Saint-Esprit qui se revêt de Gédéon. Donc, c'est intéressant de comprendre que finalement, c'est l'homme qui devient l'instrument de Dieu, hein, qui est l'instrument de Dieu pour accomplir de sa volonté. Et donc, nous-mêmes, revêtus du Saint-Esprit, nous devenons une sorte, on pourrait dire, une extension, hein, du bras de Dieu. L'agent, l'instrument qui est appelé, qui sommes appelés ensemble à manifester l'action de Dieu sur la terre. Nous voyons ici que c'est bien le cas pour Gédéon, car lorsqu'il agit maintenant, l'effet ne se fait pas entendre. Il sonne le cor chez lui d'abord, son propre peuple, hein, Abiézer, et vient, et Abiézer vient. On ne lui en veut pas d'avoir détruit l'autel de Baal. Le verbe utilisé dans le texte signifie en effet que le clan, la tribu concernée n'est pas appelée seulement, mais qu'elle répond à l'appel. Hein. Donc ils viennent. Et après avoir commencé chez lui, au moyen du cor, hein, une sonne du cor, Gédéon élargit l'appel, il envoie des messagers, certainement d'Abiézer, hein, des messagers dans les tribus environnantes, celles qui sont concernées au premier chef par les incursions de Madian dans la vallée de Jisraël. Il y a cependant, dans ce passage, et ça nous le découvrons par la suite, mais on a besoin, nous, de le savoir maintenant, il y a deux oublis surprenants. Les deux tribus d'Issacar et d'Éphraïm ne sont pas mentionnées. Or, tous deux sont, pour ainsi dire, aux premières loges dans ce conflit. Madian avait installé son camp carrément sur le territoire d'Issacar. Aussi est-il difficilement concevable que les hommes d'Issacar n'aient pas été parmi les guerriers rassemblés. Mais dans leur cas, l'explication est sans doute simple. Comme, à la différence de la deuxième tribu oubliée, Éphraïm, Issacar n'est pas mentionné plus tard dans le récit et qu'il n'y ait aucune protestation de sa part concernant cette négligence de la part de Gédéon, il faut supposer que la tribu a quand même été convoquée. Alors, son nom n'est pas mentionné, soit parce que cette tribu a été convoquée de manière plus secrète pour éviter d'alerter l'ennemi, puisque l'ennemi est sur son territoire. C'est une possibilité. Ou alors, l'autre expression, qui est peut-être encore plus simple, c'est que Issacar n'est pas un grand nom parmi les tribus d'Israël. Et il était toujours sous-entendu quand on parlait, hein, de Naphtali et des autres tribus autour. Hein, c'était leur région. Donc des fois, une des tribus pouvait ne pas être mentionnée. Tout comme dans le sud, Siméon n'est jamais mentionné lorsqu'on parle de Juda, alors que la tribu de Siméon est implantée en plein milieu du territoire de Juda. Donc c'est peut-être cette raison-là. En tout cas, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de conséquence de cet oubli d'Issacar, donc il faut dire que c'est une chose entendue. Par contre, lorsque nous venons à Éphraïm, c'est autre chose. La suite du récit, au chapitre 8, nous y viendrons au cours du printemps, nous montre que ce n'est pas un oubli normal, car Éphraïm était bel et bien une tribu du Nord, concernée par les pillages des peuples nomades, non seulement cela, mais Éphraïm était la plus grande, la plus forte des tribus du Nord. Plus tard, hein, si vous vous rappelez d'autres passages de l'Ancien Testament, vous verrez que, notamment les textes prophétiques, Éphraïm est souvent utilisé comme un nom pour représenter l'ensemble d'Israël, hein, l'ensemble du peuple du Nord. Donc, Éphraïm est une tribu incontournable. Pourquoi Éphraïm n'est pas appelé? La réponse nous est donnée uniquement indirectement dans la suite de notre passage. La partie que Marc-Étienne n'a pas encore lue, les versets 36 à 40, c'est que nous avons affaire à Gédéon. Et Gédéon n'a toujours pas une grande confiance. Ses yeux sont encore un peu trop fixés sur la situation, sa situation humaine. Il se rappelle encore qu'il est lui-même, comme il l'a dit à l'ange de l'Éternel, le plus petit dans la maison de son père, et que sa parenté est la plus pauvre en Manassé. Après les premiers signes du choix de Dieu, il a assez de courage pour convoquer en chef sa propre tribu, mais il a apparemment peur de la réaction de la grande tribu d'Éphraïm devant la convocation d'un petit Manassite inconnu. Dans la suite des événements, nous verrons bien entendu qu'il ne s'agit pas là d'un problème d'effectif. Comme Dieu avait l'intention d'accomplir la victoire de façon miraculeuse avec un tout petit nombre, la présence ou l'absence des hommes d'Éphraïm n'avait aucune importance. Mais le fait qu'Éphraïm ne soit pas informé du rassemblement, ne soit pas convoqué avec les autres tribus du Nord, aurait pu avoir de graves conséquences. pour la suite de la campagne, comme nous le voyons au chapitre 8. Les autres tribus convoquées répondent tous positivement à l'appel, confirmant cette vérité que David soulignerait un siècle et demi plus tard, quand on remet son sort à l'Éternel, mettant en lui sa confiance, eh bien, c'est lui qui agit. C'est Dieu qui suscite cette réponse positive de la part des autres tribus. Cela étant vrai, c'était vraiment de la part de Gédéon manquer de confiance que de ne pas appeler Éphraïm. Il a mis sa mission en danger à cause de ses propres craintes ou de ses propres idées reçues concernant cette tribu, au lieu de faire confiance selon une révélation de la part de l'Éternel, qui était tout de même déjà spectaculaire. Si Gédéon a bien sa place parmi les héros de la foi d'Hébreux chapitre 11, ce n'est certainement pas pour cet incident-là au cours de sa mission. Ce qui nous conduit au passage suivant, sans doute, comme je vous l'ai dit, un des plus connus de tout le récit des exploits de Gédéon. Alors, Marc-Christian, est-ce que tu veux terminer, 36 à 40 ?
Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par moi, comme tu l'as dit, je place une toison de laine sur l'air. S'il y a de la rosée sur la toison seule, et que partout ailleurs le sol reste sec, je saurai que tu sauveras Israël par moi, comme tu l'as dit. » Il en fut ainsi. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et fit sortir la rosée de la toison, une pleine coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi, je t'en prie. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais procéder encore à une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol partout ailleurs. » Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et il y eut de la rosée sur le sol partout ailleurs.
Combien de fois cet incident est cité et combien de fois nous autres, hommes et femmes, nous avons tendance à regarder l'action humaine plutôt que de comprendre ce que ce passage nous dit sur Dieu. Et souvent, j'ai hélas entendu ce passage cité en exemple à suivre. Or, s'il est là, il est pour nous apprendre tout autre chose. Mais avant de parler de cet incident, rappelons un principe d'interprétation d'un texte historique comme celui-ci. Vous savez que dans la Bible, il y a deux grandes catégories de textes, enfin, il y a plus que deux, mais pour ce qui nous concerne là, deux. Il y a des textes d'enseignement, comme le Décalogue ou le Sermon sur la montagne, passage d'enseignement dans les Épîtres. Et puis, il y a les récits historiques, c'est-à-dire l'action de Dieu au sein de son peuple. Et ces récits-là sont donnés aussi pour notre instruction. Mais ces textes-là, à différence d'un texte d'enseignement, lorsqu'un texte d'enseignement dit « tu ne commettras pas d'adultère », eh bien, il n'y a pas deux interprétations possibles. Hein. Dieu dit que l'adultère, c'est mauvais pour son peuple, c'est un péché, et on ne doit pas le faire. Lorsque le texte dit « Gédéon mit une toison devant l'Éternel », ça ne veut pas dire que tous les chrétiens doivent aller mettre des toisons devant l'Éternel. C'est un incident, l'on doit essayer d'interpréter et découvrir pourquoi il nous est donné. Et globalement, pour schématiser ou simplifier, on pourrait dire qu'un texte historique peut provoquer trois types de réactions de notre part. Première réaction, l'exemple de donner est bon et nous sommes appelés à le suivre sans hésitation. On pourrait citer l'obéissance d'Abraham, lorsqu'il est appelé à aller jusqu'à sacrifier son propre fils. Cet exemple d'obéissance est un exemple de foi qui nous est cité d'ailleurs dans les passages d'enseignement de l'Épître aux Hébreux notamment, et des Romains, comme un exemple à suivre. Deuxièmement, l'exemple est mitigé. Il y a du bon et du moins bon, mais il faut trier. On peut penser, par exemple, aux zèles un peu beaucoup, orgueilleux et sanguinaires de Jéhu, qui est appelé par Dieu à lutter contre la famille d'Omri et le culte de Baal. Eh bien, il se réjouit, il trahit, il accomplit certes la volonté du Seigneur, mais on peut se poser la question, est-ce que la manière est tout à fait la bonne? Et troisièmement, l'exemple est mauvais et nous montre précisément comment il ne faut pas faire. Si nous revenons à notre livre ici, à notre livre du juge, nous pourrions évoquer Jephté, par exemple, un autre juge que nous rencontrerons un peu plus tard, qui est amené à sacrifier sa fille unique à Dieu après avoir fait un vœu inconsidéré que Dieu ne lui avait nullement demandé. C'est un mauvais exemple. Dieu ne veut pas qu'on lui sacrifie nos filles ou nos fils. Mais Jephté le fait, est un juge, et Dieu lui donne quand même la victoire. Devant cet incident de la toison, nous avons donc à nous poser la question de quel type d'exemple s'agit-il ? Avons-nous à suivre cet exemple, à en reprendre quelques éléments, mais pas tout ? Ou bien est-ce que nous avons à le rejeter totalement, comme étant contre l'enseignement que Dieu nous donne ailleurs dans sa parole ? Si je faisais un petit sondage parmi nous ce matin, peut-être qu'il y aurait différents avis à ce sujet. À vrai dire, le passage contient lui-même la réponse à notre question, comme nous le verrons dans un instant. Et les passages d'enseignement de la parole nous donnent ailleurs la perspective divine, la perspective de Dieu concernant le comportement par lequel Gédéon demande deux confirmations supplémentaires que c'est bien Dieu qui l'envoie contre les Madianites. Cet enseignement biblique nous dit clairement que l'exemple de Gédéon est mauvais, qu'il doit être rejeté. Nous ne sommes pas appelés à demander à Dieu de confirmer par un miracle spectaculaire un ordre ou une décision qui est déjà clairement exprimée dans sa parole. Notre Seigneur Jésus-Christ exprime ce jugement lui-même de la façon la plus claire dans son propre ministère terrestre. À la fin du temps de préparation de ce ministère, lorsqu'il a passé 40 jours à jeûner, à prier dans le désert, Satan vient le tenter, chercher à le faire chuter. Or, la tentation la plus subtile consiste à placer Jésus en hauteur sur un rebord du temple à Jérusalem et à lui citer l'Écriture, afin qu'il se jette en bas pour avoir la confirmation ou donner la confirmation que c'est bien lui le Messie, chargé de cette mission incomparable du salut des hommes. Vous vous rappelez ce passage, hein ? Je vous rappelle la réponse de Jésus-Christ dans Luc chapitre 4 et verset 9. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide. » Car il est écrit « Il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi. » Ou encore « Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus répondit « Il est aussi écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Mettre des toisons en demandant que la rosée tombe sur la terre ou sur la toison uniquement. Si ce n'est pas de la provocation, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Demander une conversion de cette façon donc, alors que l'appel de Dieu a été déjà clairement exprimé dans la parole et par d'autres signes, n'oublions pas tous les autres signes que Gédéon a déjà eus, ou indication que Dieu a consenti de sa propre initiative, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est un péché. Tout simplement. Péché que Jésus rejette avec la dernière vigueur. D'ailleurs, si vous voulez lire la suite du passage du Deutéronome cité par Jésus pour repousser Satan, eh bien, vous verrez que c'est particulièrement instructif. Hein. Il cite Deutéronome 6, le verset 16. Alors, je vais vous le lire. Vous ne provoquerez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa, mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel votre Dieu vous a données. Il vous a donné votre loi, il nous a donné sa loi. Quand il a donné sa loi, on n'a pas à lui demander une confirmation, on a simplement à obéir. Demander la confirmation, c'est commettre un péché contre lui, c'est douter de sa parole, refuser d'obéir ou tout au moins retarder notre obéissance. Pourquoi donc Gédéon fait-il ce qu'il fait ici? Pourquoi le fait-il même à deux reprises? Il le fait en premier parce qu'il est un homme faible comme vous, comme moi. Il met du temps à accepter un ordre de la part de l'Éternel, pourtant déjà particulièrement clair et confirmé de façon éclatante. Il y a déjà eu le sacrifice offert à l'ange éternel brûlé miraculeusement. Il y a déjà eu cette transformation inattendue et combien efficace du cœur de Joas, son père. Quel miracle lorsqu'on voit nos parents, parfois endurcis, hein, qui viennent au Seigneur. Et à présent, des dizaines de milliers de troupes, nous allons découvrir qu'il y en a 30 000 qui sont venus à l'appel de ce petit agriculteur de Manassé, inconnu de tout le monde. Ils sont rassemblés à attendre les ordres de leur nouveau chef. C'est déjà pas mal comme miracle. Mais Gédéon est un homme qui doit ressembler un petit peu à Thomas, je pense. Il lui faut un régime particulier de signes concrets. Aussi, il concocte un premier miracle, demandant que la rosée ne tombe que sur la toison posée sur l'air, là où on battait normalement le blé, et pas sur le terrain autour. Quand Dieu, qui montre ici sa grande patience, sa compassion merveilleuse, c'est sans doute pour cela que cette nation nous est réellement chère. Quand Dieu fait ce que son serviteur, hésitant, lui demande, ce dernier se dit « Ah, j'ai fait une gaffe. Si jamais je me suis levé un peu trop tard pour me rendre sur l'air, eh bien, le soleil aura déjà tout à fait normalement séché le terrain plat, exposé et nu, alors qu'il mettrait bien plus longtemps à sécher la toison, épaisse, imprégnée de la rosée de toute la nuit. » Et c'est à ce moment-là que nous voyons dans le récit que Gédéon sait très bien qu'il est en train de pécher. Car il lui demande pardon d'avance. Je ne dois pas faire ce que je fais, mais pardonne-moi Seigneur, je le fais quand même. Ce n'est pas la meilleure façon de demander pardon, mais nous voyons Gédéon le faire. Donc il prie Dieu de ne pas permettre à sa colère, tout à fait justifiée par la requête de Gédéon, de le juger, de le condamner. Et il continue quand même, demandant cette fois que la toison soit sèche, le terrain autour humide. Car cela, le soleil tout seul ne peut pas le faire. Cela ne peut vraiment être qu'un miracle. Dieu, lui, ne s'enflamme pas. Il exerce encore sa patience. Accomplit encore un miracle. Pouvons espérer qu'à présent, le juge choisi par l'Éternel ayant reçu 5 confirmation de ce choix, sans compter la simple visite de l'ange éternel, déjà pas mal, la visite de l'ange, eh bien, que maintenant il sera prêt à poursuivre sa mission. Alors, concluons sur ce passage de la toison. Il est bon pour nous de rappeler en dernière preuve que nous n'avons pas ici un exemple de l'obéissance normale d'un serviteur de Dieu, que les signes demandés n'avancent en rien la mission qui lui est confiée. Ce n'est pas parce qu'une toison a été sèche ou humide que les Madianites vont plier bagages et partir. Gédéon n'a pas demandé une aide particulière afin de bien accomplir sa mission. Il a demandé un signe miraculeux, gratuit, que Dieu aurait pu refuser, comme il l'a refusé quand les pharisiens et les sadduciens le lui ont demandé lors du ministère terrestre de Jésus-Christ. Matthieu 16, par exemple, versets 1 à 4. Quel est donc pour nous l'enseignement essentiel de ce passage? Je dirais que, on va utiliser deux mots avec F, hein, c'est un enseignement de fidélité et un enseignement de fragilité. Dieu, lui, est fidèle. Son choix est bon, juste, compatissant, persévérant. Il ne change pas, même quand son serviteur hésite tant à lui obéir. Lui demande de confirmer plusieurs fois qu'il doit vraiment obéir. Seigneur, est-ce que je dois vraiment faire ça? Car moi, dit Dieu dans le livre d'Osée, chapitre 11 et verset 9, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Il explique ainsi que lui, il ne change pas dans son amour pour son peuple. Il ne change pas dans son amour pour Gédéon, mais il est fidèle, lui montrant que ce n'est pas par la voie de l'obéissance qui peut atteindre son propre salut et le salut de son peuple. Puisque Dieu est fidèle, sa parole ne change pas. Et ce passage nous enseigne avant tout que sa parole nous suffit. Puisqu'il ne change pas sa parole, eh bien, c'est sa parole qui doit nous dire ce que nous avons à faire et comment nous devons vivre. Si c'est Dieu qui nous l'a donné avec fidélité, c'est qu'il s'attend à ce que nous l'accomplissions, dans quelque domaine que ce soit. Nous n'avons pas à demander des confirmations. Si le Dieu fidèle nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il nous donne également les moyens de le faire. L'homme, à la différence de Dieu, l'homme Gédéon en l'occurrence ici, l'homme est fragile. Sa foi est défaillante, cette foi manque de constance. L'homme peut hésiter, il peut, comme ici, retarder son obéissance. Et ça, nous n'avons pas à l'imiter. Mais quand il échoue, ce n'est pas la fin, car Dieu, lui, reste fidèle. Sa fidélité consiste à exercer sa patience, à exercer sa compassion, à pardonner, parfois à répéter ses ordres. Oui, je veux que tu fasses ça. Oui, je veux que tu fasses ça. Mais, comme c'est pour le bien de ses enfants, même pour toute la création, que son enfant obéisse, eh bien, il ne lui dit pas « ça va, tu es fragile ». Hein, je te dispense de le faire. Ça, il ne le dit pas. Tout comme il l'a fait pour Gédéon, Dieu continue à nous pousser à accomplir sa volonté. Il sait que accomplir sa volonté, c'est pour notre bien, pour le bien de tous ceux autour de nous. Il ne dit pas, oh oui, bon, toi, tu es un faible, tu ne peux pas faire ça, je vais demander à quelqu'un d'autre. Si nous avons parfois tendance à nous servir de notre fragilité. Nous sommes après tout si peu nombreux. Nous avons si peu de ressources comparées à l'ennemi. Puis, il ne faut pas oublier notre éducation, notre passé difficile, notre mauvaise santé, notre emploi du temps si chargé. Oui, si nous nous servons de cette fragilité comme une excuse pour la passivité ou l'inactivité, pour le défaitisme ou le laisser-aller, Dieu, lui, ne nous encourage pas du tout dans cette voie. Lui reste fidèle. Et il dit, en somme, continue. Il a donné un ordre. Tout le monde connaît son ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Dieu nous demande d'annoncer sa loi évangile, d'enseigner sa loi évangile et de mettre en pratique sa loi évangile. Nous n'avons pas besoin de demander d'autres confirmations. Il a dit. C'est donc pour le bien de son peuple. C'est pour le bien de toute l'humanité. C'est pour le bien de toute la création. Et c'est possible. Car il a promis que tant que nous faisons cela, il est avec nous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous reconnaissons dans ce serviteur Gédéon un serviteur qui a agi de manière merveilleuse, qui a été un canal. Et pourtant, nous avons vu ce matin combien il est fragile, combien il aurait voulu se servir d'excuse pour retarder sa mission. Et dans cette fuite, Seigneur, nous nous reconnaissons. Nous savons que nous sommes fragiles et nous nous servons si souvent de cette fragilité comme d'une excuse. Père, lorsque nous faisons cela, nous oublions que toi, tu es fidèle. Pardonne-nous, Seigneur. Ta parole ne change pas. Ta fidélité ne change pas. Tu es là pour nous conduire, ici à Cavaillon, à Aix-en-Provence, en France où parfois nous avons l'impression que la terre est si dure, parfois si stérile. Seigneur, ta parole ne change pas et nous avons à la vivre et à l'annoncer et c'est toi qui en donnes les moyens. Empêche-nous, nous te prions, d'en douter. Et rassure chacun de nous pour que nous sachions que c'est toi, Seigneur, qui nous accompagne, qui a promis d'être avec nous, de nous accompagner, et tu ne nous quittes pas. Tu es toujours fidèle à tes promesses. Loué soit ton nom, Seigneur. Amen.